bien sur Radio G 101.5 FM, il est 13h, vous écoutez l'Europe dans le micro. Aujourd'hui, la Maison de l'Europe Angers-Maine-et-Loire vous propose d'écouter une compilation de nos émissions Eurodyssée, diffusées sur la web radio Sun Junior, qui font découvrir chaque mois un nouveau pays européen aux jeunes auditeurs de 6 à 11 ans. On profite donc de cette émission pour faire un petit tour d'Europe pour les petits et les grands. Ces émissions ont été réalisées par nos volontaires en service civique, Louise et Solène, ainsi que par des étudiantes de l'UCO. On commence tout de suite par l'Italie.
Welcome aboard, ladies and gentlemen.
En avant tous.
Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ.
3, 2, 1, ready.
Eurodyssée, un jeudi par mois à 17h20 sur Sun Junior.
Bonjour à tous. Ciao a tutti. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'Italie, la Bella Italia. L'Italie est l'un des 6 pays fondateurs de l'Union européenne et fait partie de la zone euro, c'est-à-dire que les Italiens, tout comme les Français, utilisent l'euro comme monnaie. D'ailleurs, l'Italie possède une frontière commune avec la France puisqu'elle se situe juste de l'autre côté des montagnes des Alpes. L'Italie possède de nombreuses îles, mais les deux plus grandes sont la Sardaigne, située sous la Corse, et la Sicile, qui se trouve au sud du pays. Rome, sa capitale, fut aussi la capitale de l'Empire romain pendant plus de 350 ans. Cette grande ville, remplie d'histoire, d'art et de culture, attire de nombreux touristes chaque année. Et l'Italie aussi. En effet, c'est le 5e pays le plus visité dans le monde, et vous allez comprendre pourquoi. L'italien est la langue officielle nationale et elle est parlée par la majorité des habitants du pays. Mais la particularité des Italiens, c'est qu'ils sont presque tous bilingues dès leur enfance. En effet, beaucoup parlent aussi dans une langue régionale ou un dialecte de leur ville d'origine. Comme le piémontais, le sicilien, le napolitain, il en existe des milliers. Ces langues sont principalement utilisées dans le domaine familial ou avec les amis. Les Italiens sont un peuple méditerranéen très ouvert et au contact facile. La famille est un pilier de la société italienne et tout prétexte est bon pour se retrouver avec ses proches et ses amis. Les repas sont parfois interminables, ce qui laisse largement le temps de discuter. Ils adorent parler et converser, pas seulement à la maison, mais aussi sur les places publiques, véritable centre de la vie sociale et culturelle. La gastronomie italienne est très riche et mondialement connue, notamment pour ses pâtes. Et pour cause, il existe là-bas plus de 300 sortes de pâtes. Mais ce n'est pas tout. C'est un pays gourmand qui compose ses repas quotidiens autour de 4 plats. Ainsi, on commence par l'antipasto, souvent composé de légumes de saison marinés à l'huile d'olive. Ensuite, le primo est constitué de pâtes, de riz ou d'autres féculents. Le secondo est constitué de viande ou de poisson accompagné de petits légumes. Et enfin, le dolce est généralement un dessert fait maison, car les Italiens préfèrent de loin les produits frais aux préparations industrielles.
Quelle que soit la région ou la ville d'Italie où vous irez, il y aura toujours soit des ruines antiques, soit le chef-d'œuvre d'un artiste renommé, ou tout simplement des paysages magnifiques. Le patrimoine italien est l'un des plus importants patrimoines artistiques et culturels au monde, avec pas moins de 95 000 églises inscrites aux monuments historiques et 40 000 forteresses et châteaux. Ne manquez pas d'aller contempler le tableau de la Seine de Léonard de Vinci si vous passez par Milan, ou bien le célèbre plafond de la chapelle Sixtine au Vatican, peint par Michel-Ange.
La religion en Italie est largement dominée par le christianisme, en particulier le catholicisme. En tant qu'ancienne religion d'État, le catholicisme a toujours une grande influence. Et ce n'est pas étonnant, puisque le pape réside dans la cité du Vatican, qui se trouve dans la ville de Rome. C'est pour cela que Rome est considérée comme la maison de l'Église catholique.
Connaissez-vous ceci?
Stamattina, mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Oui, c'est Bella Ciao. Cette chanson est rendue célèbre par la série La Casa de Papel. Elle provient en réalité d'un chant révolutionnaire italien très célèbre qui est apparu lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est à la fois un chant révolutionnaire, antifasciste et populaire. La vie est belle, ou en italien La vita è bella, est un film paru en 1998 qui a connu un succès dans le monde entier. Cela raconte l'histoire d'un papa italien, Guido, et de son petit garçon, Josué, qui, lors de la Seconde Guerre mondiale, sont déportés dans un camp de concentration parce qu'ils sont juifs. Cependant, le papa veut tout faire pour éviter que son fils subisse l'horreur des camps. Alors il va lui faire croire que tout ceci n'est qu'un grand jeu. En voici une scène mythique.
Buongiorno, principessa.
L'organisation de la journée d'un élève en Italie est un peu différente de celle d'un élève français, car ils n'en courent que le matin. En effet, l'après-midi est réservé aux activités extrascolaires et les enfants en profitent pour faire du sport, du théâtre, apprendre une langue étrangère ou bien apprendre à jouer d'un instrument de musique.
Le football est le sport national en Italie, à un tel point qu'il est une composante de la culture italienne. Il y avait 64 829 clubs de football en 2013 et l'équipe nationale Squadra Azzurra a remporté la Coupe du Monde de football à 4 reprises. Oui, ils ont bien 4 étoiles sur leur maillot.
Le saviez-vous? Il pisolino, la sieste, fait partie des traditions italiennes depuis l'Antiquité et c'est surtout le cas l'été lorsque la température grimpe à plus de 30 degrés dans le sud du pays. Ainsi, les boutiques ferment, la circulation ralentit et la ville s'endort après le déjeuner. Alors, êtes-vous prêt à goûter la Dolce Vita?
Merci pour votre attention.
Thank you for your attention.
Pour évacuer l'avion, suivez le marquage lumineux.
Au revoir. Hasta la vista.
On continue cette compilation de nos émissions Eurodyssée avec l'Espagne.
Welcome aboard, ladies and gentlemen.
En avant tous.
Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ.
3, 2, 1, ready.
Eurodyssée, un jeudi par mois à 17h20 sur Sun Junior.
Aujourd'hui, la maison de l'Europe, Angers et Maine-et-Loire, Europe Direct nous fait découvrir l'Espagne.
Bonjour à tous.
Hola a todos.
Qui n'a jamais rêvé de prendre le soleil en Espagne? Il faut dire que ce pays frontalier de la France a de nombreux atouts pour séduire les touristes. Deuxième destination touristique au monde, l'Espagne accueille chaque année plus de 80 millions de voyageurs curieux. Bordée par la mer Méditerranée et l'océan Atlantique, elle attire les touristes par la douceur de son climat et la chaleur de ses habitants.
On compte aujourd'hui 45 millions d'Espagnols dans le pays, dont plus de 3 millions dans la capitale, Madrid. L'Espagne est entrée dans l'Union européenne en 1986 et fait aujourd'hui partie de la zone euro. La langue officielle du pays est l'espagnol, mais de nombreuses langues régionales sont encore très pratiquées, comme le catalan, le basque ou le galicien.
En Espagne, le gouvernement est une monarchie constitutionnelle. Comme au Royaume-Uni, le roi, Felipe VI, a peu de pouvoir. Et le pays est principalement dirigé par le Premier ministre, Pedro Sánchez. Après la mise en place de la Seconde République en 1931, une guerre civile éclate. C'est-à-dire une guerre entre les Espagnols. Elle oppose les républicains et les nationalistes. Cette guerre a fait près de 400 000 morts. Après 3 ans de conflit, les nationalistes gagnent et prennent le contrôle du pays, avec à la tête du pouvoir Francisco Franco, plus souvent appelé Franco. Il instaure en Espagne une dictature. Les libertés des habitants sont alors très restreintes et beaucoup d'opposants à Franco sont emprisonnés. L'Espagne redevient progressivement un pays démocratique avec la mort de son dictateur en 1975.
La période du franquisme est l'une des plus marquantes de l'histoire espagnole, avec bien sûr la Reconquista, reconquête en français. C'est le nom donné à la période du Moyen-Âge, durant laquelle les chrétiens tentent de récupérer les territoires occupés par les musulmans dans le sud-ouest de l'Europe. Ces affrontements religieux ont duré pendant plus de 700 ans. Finalement, en 1492, les chrétiens reprennent le contrôle de l'Espagne et chassent définitivement les musulmans du pays.
L'influence de la religion chrétienne est encore aujourd'hui très forte en Espagne. De nombreuses fêtes religieuses sont célébrées dans le pays, comme l'Épiphanie, le 6 janvier. La veille, les familles se réunissent et les rois mages défilent dans les rues. Le matin même, lorsque les enfants se réveillent, ils reçoivent des cadeaux, apportés par les rois, avant de déguster une brioche en forme d'anneau. C'est la célèbre couronne des rois.
Le lieu du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle est aussi un symbole de l'importance de la religion chrétienne en Espagne. Située au nord-ouest du pays, la commune accueille chaque année 3 millions de touristes qui viennent se recueillir sur le tombeau de Saint-Jacques, un des disciples de Jésus. Selon la légende, la Vierge Marie serait également apparue dans la ville
Saint-Jacques-de-Compostelle n'est qu'un des nombreux lieux touristiques du pays. Vous connaissez sans doute la capitale, Madrid, avec ses nombreux parcs, musées ou encore grands magasins, situés sur la Gran Vía. Mais avez-vous déjà entendu parler de l'Alhambra, à Grenade, ce château majestueux aux murs rouges situé au sommet d'une colline, ou encore de la cathédrale de Séville? Célèbre pour son mélange entre culture catholique et musulmane, il serait trop long de parler de tous les monuments du pays, tant ils sont nombreux.
Mais faisons un petit détour par Barcelone. La ville est tout d'abord célèbre à l'international pour son club de foot, le FC Barcelone. Mais il n'y a pas que le foot qui impressionne dans cette ville. Barcelone abrite par exemple le plus grand parc du monde, le parc Collserola. La célèbre Sagrada Familia est aussi l'un des monuments les plus connus de la ville, voire même du pays. Les travaux de cette basilique gigantesque, imaginée par Gaudi, ont débuté en 1882. Pourtant, elle n'est toujours pas terminée aujourd'hui. C'est encore cette particularité qui intrigue tant les touristes et qui lui donne une telle renommée.
À Barcelone, Gaudi ne s'est pas contenté de la Sagrada Familia. Le célèbre architecte du 19e siècle a laissé son empreinte un peu partout dans la ville, du Parque Güell en passant par la Casa Pajo. Il suffit de faire quelques pas dans Barcelone pour rencontrer l'une de ses œuvres.
Les célébrités ne manquent pas non plus en Espagne. Le peintre, Pablo Picasso, que nous connaissons tous pour ses tableaux parfois étranges, est espagnol. Les sportifs, Alberto Contador ou encore Rafael Nadal, sont également nés en Espagne. Peut-être avez-vous même entendu parler de Penélope Cruz, l'actrice, elle aussi originaire d'Espagne. En continuant sur le cinéma, Pedro Almodovar, célèbre réalisateur, est espagnol. De nombreuses séries espagnoles pour adultes et adolescents sont reconnues dans le monde, comme par exemple La Casa del Papel ou bien Elite. Nous pouvons aussi parler du flamenco, musique et danse traditionnelle espagnole. Pour découvrir de la musique célèbre espagnole plus moderne, citons des chanteurs comme Rosalia ou Enrique Iglesias, que nous allons écouter maintenant.
Nous allons maintenant poser quelques questions à Maria, originaire d'Espagne et plus précisément de Valence, et volontaire en service civique à Angers. Quels sont tes plats typiques espagnols préférés, Maria ?
Mon plat préféré est le riz au four ou arroz al horno, qui a du riz, bien sûr, des tomates, des pommes de terre, de l'ail et des travers de porc et boudin noir. J'aime aussi la paella et le gazpacho, qui est un plat froid typique du sud.
Peux-tu nous dire ce que signifie pour toi la joie de vivre espagnole ?
La joie de vivre espagnole, pour moi, c'est le climat. Très typique, je sais, mais le soleil et les bonnes températures invitent à sortir et à passer la journée avec des amis au bar, parc, à la plage, aussi à faire du sport et des activités dehors. La gastronomie est aussi un point fort de mon pays, car en plus d'avoir des plats très délicieux, elle rassemble beaucoup de monde. Les dimanches, par exemple, il y est typique de manger avec toute la famille, grands-parents, oncles, cousins, un paella ou un autre plat de la région où vous habitez.
Notre émission touche maintenant à sa fin. Mais contrairement à ce que prétend l'expression espagnole partir à la française,
despedirse a la francesa,
nous ne partirons pas sans vous dire au revoir
et à bientôt.
Adios y hasta pronto.
Merci pour votre attention.
Thank you for your attention.
Pour évacuer l'avion, suivez le marquage lumineux.
Au revoir.
Vous êtes toujours sur Radio G 101.5 FM et vous écoutez une compilation de nos émissions Eurodyssée pour les 6-11 ans. On part tout de suite pour la Serbie avec notre invitée serbe, Bojana.
Welcome aboard, ladies and gentlemen.
En avant, tous.
Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ.
Eurodyssée, un jeudi par mois à 17h20 sur Sun Junior.
Aujourd'hui, la Maison de l'Europe Angers-Maine-et-Loire Europe Direct nous fait découvrir la Serbie. Bonjour à tous.
Bonjour.
Zdravo.
Connaissez-vous la Serbie ? Parfois méconnue, la Serbie est un pays d'Europe qui mérite le détour. Sa capitale est Belgrade. Petite particularité de Belgrade, la proportion de femmes y serait plus importante que celle d'hommes. On y compterait en effet 3 hommes pour 8 femmes.